Mes amis, Monsieur Lacaze, 4. J'avais lu, à la devanture d'une boulangerie, une pancarte ainsi conçue. Complet noir à vendre pour cause de décès. Pantalon, veste, gilet. S'adresser à l'intérieur. Le lendemain, de crainte que cette pancarte ne fût retirée, je me levai de bonne heure. Quand j'entrai dans la boulangerie, le patron que je voyais tout entier, car une glace reflétait son dos, me demanda ce que je désirais en commerçant qui n'attendait pas après moi. « C'est pour le complet, monsieur. »«
Ah bien !»
Il appela sa femme qui plaçait des pains de fantaisie debout. Bien que celle-ci fût très grosse, une ceinture faisait le tour de sa taille. Elle s'approcha, salie aux genoux par de la farine, comme par un pneu de bicyclette. « Monsieur vient pour le complet, » expliqua le boulanger. La patronne s'apprêtait à me renseigner lorsqu'un client entra. Elle me délaissa pour le servir, cependant que son mari faisait glisser dans un tiroir ouvert, comme on attrape une mouche, les pièces qui se trouvaient sur la caisse de marbre. Des billets de banque en désordre emplissaient un casier de ce tiroir. Les déplier, les compter le soir, quand la boutique est fermée, cela doit causer une grande joie. « Mais comment s'appelle la personne qui vend le complet ?» demandai-je.
« C'est la veuve Junot. »
En apprenant que cette personne était une veuve, j'en ressentis un vif plaisir. Je préfère avoir affaire aux femmes qu'aux hommes.
Et elle habite au 23.
Je vous remercie. Pour sortir, je fis un détour parce qu'une jeune fille accroupie lavait d'une main les cubes en perspective du dallage. Des balcons donnaient une apparence bourgeoise à la maison qui portait le numéro 23. Je tâtai mon portefeuille. Je prends toujours cette précaution avant d'acheter quelque chose, et parfois même quand je n'achète rien. Sous le porche, il y avait un tapis humide, épais, pour s'essuyer les pieds, et plus loin, dans l'ombre, une porte vitrée qui ne s'ouvrait pas du côté auquel on s'attendait.
« La concierge !»
Une voix qui venait de l'escalier me cria.
« Voilà !»«
Madame Junot !» demandai-je poliment. La concierge ne répondit pas. L'importance qu'elle avait en ce moment s'évanouirait dès que moi aussi je saurais à quel étage demeurait la veuve. « Madame Junot, » répétai-je.
« C'est pourquoi ?»«
Pour le complet. »«
Au deuxième, porte à gauche. »
Le mur de l'escalier imitait le marbre. Le vieux bois des marches était ciré. Au premier étage, je lus « entresol ». Au deuxième, « premier ». Comme j'avais compté deux étages, je m'arrêtais. À la porte de gauche, un cordon d'étoffe pendait jusqu'à la serrure. Je le tirai doucement, car il me parut peu solide. Une clochette tinta, non pas derrière le mur, mais loin, dans l'appartement. Puis, on ferma une porte, celle de la cuisine probablement. Un monsieur, sans chapeau et sans cravate, apparut. J'eus l'impression de l'avoir surpris. En le regardant, je me demandai ce qu'il avait bien pu faire avant que je sonnasse.
« C'est pour le complet, »
dis-je enfin. « Quel complet ?»«
J'ai vu à la boulangerie une... »« C'est au-dessus, monsieur. »«
La concierge a dû vous le dire. » Il me montra le plafond avec l'index. « La concierge m'a dit au deuxième. »«
Ici, vous êtes au premier. Lisez donc. »
Je m'excusai et montai à l'étage au-dessus. Cette fois, je ne me trompais pas. La carte de visite de Madame Junot était clouée à une porte. Un trait à l'encre rayait l'adresse. Je sonnai. Une petite femme laide et bien coiffée m'ouvrit. Une alliance bougeait sur la phalange maigre d'un de ses doigts. C'est curieux, comme l'alliance des femmes laides saute aux yeux.
C'est pour le complet, madame.
Ah !
Entrez, monsieur, entrez.
Cette invitation me fit plaisir.
Les gens qui ont confiance en moi sont si rares. J'essuyais longuement mes pieds, comme je le fais chaque fois que je vais chez quelqu'un, pour la première fois. J'ôtais mon chapeau et je suivis cette dame. Elle m'introduisit dans une salle à manger. Je me tins au milieu, loin de tout ce qui aurait pu être emporté. « Asseyez-vous, monsieur. »«
Merci, merci. »«
Alors, c'est pour le complet ?»«
Oui, madame. » »«
Ah, monsieur, si vous saviez ce qu'il m'en coûte de me séparer des effets de mon pauvre époux. »« Il est mort, à la fleur de l'âge, monsieur. » »« S'il savait que je fusse obligé de vendre ses habits à lui pour vivre. »
J'aime qu'on me fasse des confidences, comme j'aime qu'on me dise du mal des gens. Cela donne de la vie aux conversations.
Quoi de plus pénible que de vendre des objets avec lesquels on a vécu et qui vous sont aussi familiers que les grains de beauté de votre corps?
C'est vrai, on tient aux souvenirs, dis-je en levant la main.
Surtout aux souvenirs qui vous rappellent tant de choses. Ah, si je pouvais, je le garderais, ce complet. Il allait si bien à mon mari. Mon pauvre mari avait justement votre taille. Il était peut-être un peu plus fort.
Il est vrai que c'était un homme fait.
Il était chef de bureau. Vous avez dû lire sur sa carte de visite, à la porte.
Je n'ai pas fait attention.
L'adresse est rayée parce que nous avions fait imprimer ces cartes avant d'habiter ici.
Oui, ce complet m'évoque des souvenirs.
Nous avions été, mon mari et moi, l'acheter ensemble, à Réaumur. J'ai conservé la facture. Je vous la donnerai.
C'était un après-midi de printemps.
Les gens cherchaient des yeux les bourgeons dans les arbres. Le soleil éclairait le ciel tout entier. Un mois après, mon mari mourait. Il avait porté ce complet deux fois, deux dimanches.
Seulement ?
Oui, monsieur, un complet de 160 francs en 1916. En ce temps-là, l'argent avait plus de valeur qu'aujourd'hui. C'est un complet, il y a le pantalon, la veste et le gilet.
Attendez, je vais le chercher.
Madame Junot revint quelques instants après, avec le complet enveloppé dans une toile. Elle le posa sur la table, ôta les épingles et, prenant la veste, elle me la montra devant et derrière, au bout de son bras tendu. Je touchai l'étoffe.
« Regardez la doublure, monsieur. »
En effet, le complet était neuf. Il n'y avait pas de taches sous les bras. Les boutonnières et les poches étaient raides.
Oh, « c'est un crève-cœur pour moi, monsieur, de me séparer de ces reliques. J'ai peur que mon mari, qui est au ciel, ne me voie. »
Mais que voulez-vous? Je ne suis pas riche. Il faut vivre. Mon mari me pardonnera.
Tenez, regardez, nous voilà. »
Elle me montra une photographie haute d'un mètre qui représentait un couple de mariés.
Vous voyez, monsieur, c'est l'agrandissement d'un agrandissement. Plus mon mari est grand, plus il me paraît vivant.
Je regardais longuement les mariés. Je ne reconnaissais pas Madame Junot.
« Oui, monsieur, c'est bien nous en 1915. Le lendemain, nous partions pour la campagne. »
Elle me toisa des pieds à la tête.
« Il était de votre taille. Un peu plus fort tout de même. »
Je pensais que s'il était plus gros, le complet ne m'irait pas.
Par délicatesse, je ne parlais pas de ma crainte.
« En 1914, nous étions déjà fiancés.
Oh, monsieur !» Ces soirées au bord de la Seine.
À Paris, il faisait trop chaud, et tout ce monde, à cause de la guerre, nous incommodait.
Mais votre mari n'était pas soldat.
Oh, monsieur, pensez-vous, il n'était pas fort. Et lui, justement, qui aurait dû vivre, puisqu'il n'était pas soldat, il a été emporté par une maladie.
C'est la vie,
murmurai-je.
Oui, ainsi va le monde.
« De quoi est-il mort ? » demandai-je, craignant subitement que ce ne fût d'une maladie contagieuse.
« D'une congestion. »
Profitant de ce que la veuve se recueillait, je demandai le prix du complet.
« Il n'est pas cher, monsieur. 75 francs. Regardez cette coupe. »
Elle fit avec la main un demi-cercle qui figurait, sans doute, une taille imaginaire. « Touchez l'étoffe. C'est du drap anglais d'avant-guerre. Vous pouvez vous en rendre compte. Dans les plus grands magasins, vous ne trouverez plus cette étoffe. » Devant la loge, je marchais vite, gêné parce que la concierge savait qu'il y avait un complet dans le paquet que je portais sous le bras. Une voix m'appela. Je me retournai. La concierge, qui m'avait guetté, était là, près de l'escalier. « Le monsieur du premier s'est plaint. Je vous avais pourtant dit que Madame Junot habitait au deuxième. Il faut faire attention. C'est moi que les locataires rendent responsable. » Pour ne pas provoquer une histoire, je partis sans me fâcher. À cause de mon complet, je n'allais pas manger chez Lucie. Elle se serait moquée de moi. Je déjeunais dans un de ces petits restaurants où le menu est écrit à la craie sur une ardoise. Puis, pour passer le temps, je me promenais par les rues. La veste me serrait un peu sous les bras. Les manches, trop longues, me chatouillaient les mains. Le pantalon moulait trop mes cuisses. Mais le noir me va bien. Le par-dessus ouvert, je me regardais à toutes les devantures, sans en avoir l'air. J'ai remarqué que je suis beaucoup mieux dans les vitrines que dans les vraies glaces. Quand je sentis ma digestion terminée, j'entrai dans un établissement de bain. Je savais qu'il y avait un côté pour les hommes et un autre côté pour les dames. Sans cela, je ne serais pas entré. La caissière me donna un numéro. Pourtant, j'étais seul. Le garçon ne tarda pas à m'appeler. Je pénétrai dans une cabine. La porte ne fermait pas à clé. Ce détail m'ennuya pendant tout le bain, surtout lorsque j'entendis des pas. Comme j'avais les pieds froids, la chaleur de l'eau me parut très agréable. Je me savonnais avec un petit savon qui ne pouvait sombrer, tout en prenant garde à mes yeux. Je m'amusais à flotter. Comme l'eau se refroidissait, je me levais d'un bond et m'essuyais, la figure d'abord, avec une serviette qui se mouilla aussi vite qu'un mouchoir. En sortant de l'établissement de bain, je me sentis si bien que je me promis de revenir chaque fois que j'aurais de l'argent.